Claude, on parle d'un soldat.
Un petit soldat de 26 ans qui était un amoureux en peine et que sa peine rongeait dans la boue d'une tranchée où il retenait l'ennemi et qui a fini par se donner la mort dans une forêt d'Ukraine. Et c'est avec ce soldat que s'achève le beau reportage du Figaro près d'une brigade d'assaut de Transcarpathie qui, dans la région d'Orekhiv, protège la ville industrielle de Zaporijja. Il est, ce soldat, l'autre mort venu d'Ukraine dans nos journaux, quand notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerimov, que vous avez évoqué, Léa, tout à l'heure, fait la une de Sud-Ouest. Il avait fait ses études à l'école de journalisme de Bordeaux et pour y entrer avait planché à l'oral sur la France-Afrique économique en Afrique de l'Ouest. C'était en 2012. Qui pensait alors mourir au Donbass ou qu'un jour on raconterait des tranchées boueuses devant Zaporijja? Dans les tranchées ukrainiennes, la journaliste du Figaro, Margot Ben, a rencontré des volontaires encore imprégnés de leur vie d'avant. Voilà le lieutenant Yaroslav, autrefois journaliste, qui s'émerveille d'entendre un rossignol. Voilà le lieutenant Yura, certain de sa civilisation, qui moque l'ennemi alcoolisé de Tchétchène, dit-il, ou d'un autre coin perdu de Russie. Les Ukrainiens ont installé un routeur Wi-Fi au-dessus de la tranchée. Ils boivent des smoothies, ils fument des cigarettes électroniques. Mais il faut aussi se protéger, il faut bêcher autant que tu t'aimes toi-même, dit un vétéran, mais est-ce sa propre tombe qu'il creuse ? Les soldats ukrainiens sont rongés par l'obusite, ce syndrome qui touchait nos poilus dans la Grande Guerre à force de subir le bruit et les chocs des obus, des bombardements. Les sourires des guerriers masquent la peur, la fatigue, la folie qui affleure. Une psychologue va rejoindre la brigade, mais le petit soldat à la peine de cœur ne l'a pas attendu. Dans Le Monde, les DNA, La Voix du Nord et Ouest France, nous vient un homme qui longtemps a repoussé la mort. Il était écrivain, Boris Pahor, décédé hier à 108 ans dans sa ville natale de Trieste, au bout de l'Italie, aux portes des Balkans. Il était slovène. Sous Mussolini, il avait connu la haine contre son peuple comparé aux punaises. Il fut antifasciste, résistant, soldat, prisonnier, déporté. Il passa par le camp alsacien du Struthof et à sa libération retrouva le goût de la vie en arrivant à Lille où on l'avait évacué, une ombre en pyjama rayé, qui se croyait séparé des piétons ordinaires et innocents. Et puis il y eut un magasin de lingerie, la gentillesse d'un coiffeur qui l'avait rasé, et l'île fut pour lui le béaba de l'alphabet humain. Ses mémoires des camps, pèlerins parmi les morts, le rendirent célèbre déjà octogénaire comparé à Kertész et à Primo Levi. Il écrivait ceci: l'humanité est seule, et seule elle forge son existence, supportable ou monstrueuse, sur sa planète.
On parle d'une autre mémoire également.
Que vous allez trouver sur le site de Libération, celle de Yann Byrne, député de Liverpool à la Chambre des communes, qui était présent samedi soir au Stade de France, mais qui est surtout un survivant du drame de Hillsborough, ce stade où en 1989, l'incompétence de la police provoqua la mort de 97 supporters de Liverpool. À cette époque, les fans du football étaient vécus comme une menace en Angleterre. On voulait déprolétariser les stades, on supprimait les standing terraces. Ces tribunes debout se forgeaient la culture ouvrière. Et les morts de Hillsborough, qui imprègnent désormais Liverpool, portaient aussi cette symbolique. Tout ceci est très bien raconté sur Mediapart par le journaliste Michael Correia, bon spécialiste du football populaire. Et lisant, vous comprendrez mieux ce qui se joue à vif entre Liverpool et la France, quand notre ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est épinglé par Libération en une et par le Figaro plus doucement, et qualifié d'auteur de fake news d'État par le chercheur en sécurité Sébastien Rocher dans Le Progrès. Dans l'Obs, encore en kiosque et sur le site, on dissèque le parcours d'un grand intellectuel, Marcel Gauchet, qui, pour avoir affirmé que Marine Le Pen relevait plus du gaullisme de la Ve République que de l'extrême droite, s'est fait reprendre sévèrement dans ce studio par l'historien Patrick Boucheron. Mais à partir de l'incident, on nous raconte l'évolution d'un homme qui se réclame de la gauche, mais considère depuis longtemps que l'immigration est un sujet majeur, que la politique ne se fonde pas sur les droits de l'homme et que le lepénisme doit être crédité de son adhésion à la démocratie. On trouve aussi sa rupture initiale, elle est ancienne. Gauchet était encore jeune quand il rompit avec les phares de la pensée de gauche qui étaient Michel Foucault et Pierre Bourdieu. Les idées sont brûlantes quand on sait les incarner. Dans La Provence, qui consacre deux pages à partir d'un rapport du Sénat à, je cite, « l'inefficacité, la folie et la loterie de la politique française d'immigration », je lis que des militants cherchent encore à établir contre la justice qui s'y refuse. Si la nuit du 7 mai 2018, la jeune Nigériane Blessing Mathieu, immigrée clandestine qui venait de passer la frontière italienne, avait ou non été poursuivie par des gendarmes avant de se noyer dans la Durance. Je lis dans le Progrès que le CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France, demande que la justice prenne au sérieux la mort de René Hadjadj, octogénaire poussé du 17e étage d'un appartement du quartier de la Duchère à Lyon par un homme qui, dans ses vaticinations sur les réseaux sociaux, faisait preuve à ses heures d'obsession antisémite.
Et on parle enfin, Claude, d'un sandwich.
Qui mérite bien une colère, mais c'est le la souriante, puisque dans le Progrès encore, je lis que les chefs cuisiniers de l'Ain se mobilisent contre un sujet d'examen donné aux élèves de CAP cuisine, leur demandant de préparer un burger avec du pain industriel et de la mayonnaise toute prête. Non, disent les chefs, un cuisinier doit savoir cuire le pain et préparer la mayo. Dans la Provence, j'en termine, j'apprends que l'application Waze, qui nous évite les bouchons, se programme désormais avec l'accent marseillais. Eh ben voilà, on y est bonne mère. Elle existe aussi en version toulousaine et ch'ti. Un sociologue, Médéric Gasquet-Cyrus, trouve ça rigolo, mais surjoué. À la longue, dit-il, ça pourrait le gonfler.
Merci Claude pour cette revue de presse. France Inter.